Bonsoir, bonjour à tous et à tous. Nous sommes le 7 novembre 2019. Vous êtes dans votre émission Sortez en direct sur Radio Campus Tour 99.5. Nous sommes dans une émission un peu particulière lors de ces deux prochains jours, car Alexandre n'est pas là. Je serai donc là seule en studio. Et suite à un petit contretemps, notre invité arrive dans très peu de temps. Je vais devoir donc meubler un peu en attendant. Donc je vais un peu peut-être réfléchir à quoi dire. Si, peut-être vous expliquer un peu de quoi on va parler. On va parler du château du Plessis et de l'événement Romain de Serreau des Ombres, si ça se dit bien en français. Comblons, je ne sais point quand l'invité arrive. Nous serons aussi en compagnie de, si j'ai bien compris, deux services civiques qui sont là-bas, qui seront surtout là pour assister à cette émission et voir un peu comment ça se passe. Je crois que les invités et Mélissa qui va venir peut-être un peu m'aider pour cette émission arrivent. Un peu toute seule, un peu déboussolée. Bonjour, voilà, notre invité est là. On est bien, c'est bon. On est en direct. On perd pas la main. On va laisser tout le monde s'installer. Oui, allez-y. On va laisser tout le monde s'installer tranquillement le temps que... C'est donc la faute aux embouteillages. On va peut-être se mettre un petit titre de 2 minutes en attendant... On va se mettre un petit titre de 2 minutes en attendant que tout le monde s'installe et de qu'on puisse parler un peu de l'émission à venir. A tout de suite, on va écouter du coup « Faut qu'on rentre bosser ». Toujours en direct sur Radio Campus, c'est bon, on a pu faire le point, tout le monde est là, tout le monde est prêt, tout le monde est chaud. Donc on va dire bonjour à tout le monde qui est autour de la table. D'abord bonjour à Mélissa qui vient m'accompagner un peu sur cette première un peu toute seule.
Bonjour.
Et puis à notre invité, José Manuel Cano, c'est ça?
Lopez,
pardon.
Il manquait un petit bout quand même. Voilà, c'est pour ça que je mets longtemps à arriver, que je suis en retard.
D'accord.
C'est mon nom, le temps de garer mon nom, c'est très très long.
Le temps de l'écrire. Et du coup, deux services civiques du Château Plessis qui sont venus accompagner pour voir un peu comment ça se passe l'émission. Salut les filles.
Salut.
Bonjour.
Vous inquiétez pas, ça va vite en service civique. Moi j'y suis, regardez, on est bien. Donc, monsieur Canou Lopez, vous êtes venu parler du coup de votre événement Romain de Serreau des Ombres. C'est ça qui se passe le 14 novembre prochain.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet événement?
Non, c'est que j'étais un peu troublé par le monsieur Canou Lopez. Voilà, parce que comme ça fait tout de suite une espèce de frontière d'âge. Le vieux arrive en retard,
pas du tout.
Donc on le traite de monsieur et tout ça. Non, je blague. En fait, le Romancero des Ombres, c'est, je sais pas si c'est pas la cinquantième création de la compagnie.
Mm-hmm.
Ce qui veut dire qu'elle vient au bout d'un très long parcours de mise en scène. Donc, il a démarré en tant que compagnie amateur en 1979 à Tours, qui ensuite est passé professionnel en 1986. Et quand on arrive à un parcours de cette longueur-là, on ne fait plus, même si on l'a réellement jamais fait à un moment donné, mais on ne fait plus une création par hasard.
Oui.
C'est-à-dire que ça a du sens.
Ouais.
Le fait de mettre en scène un spectacle, c'est avant tout un acte qui est un acte d'une certaine gravité, puisque on rassemble des gens autour d'un projet pendant des mois, parfois pendant des années. Et puis, à un moment donné, on a cette immense prétention qu'on a aujourd'hui tendance à oublier, puisque tout est banalisé, cette prétention de convoquer des spectateurs pour leur donner à voir et entendre ce qui a été au cœur de ce long travail de gestation. Et donc, il se trouve que le Romancero des Ombres, pour beaucoup de raisons, est une création qui est complètement significative d'un long parcours de metteur en scène, et en même temps d'une évolution de ma perception de mon engagement d'homme théâtral, en ce sens que j'ai eu la chance de jouer dans je crois 12 pays européens, de montrer notre travail de création à des publics extrêmement différents. Entre du jeune public, des gens de tous les âges, et donc de toutes les nationalités, dans des univers très très différents. Au fur et à mesure, mes envies, puisque on ne peut pas faire ce type de parcours-là si on n'a pas un désir intime de continuer à s'enfermer, il faut être totalement stupide pour passer sa vie. Et dit oui en plus, hein. Faut être stupide, donc effectivement, à s'enfermer pendant toute une nuit dans une salle noire. J'ai passé ma vie, moi, dans la pénombre. 40 ans de ma vie dans la pénombre. Donc c'est qu'il y a quand même une nécessité. Si on n'a pas cette nécessité, ce désir-là, l'acte théâtral n'a pas de sens. Et il se trouve qu'on arrive là, à un moment donné de ma vie de metteur en scène, pour plein de raisons, où j'ai plus envie de faire un théâtre, même si j'ai rarement fait ça, mais malgré tout, un théâtre uniquement pour montrer des univers qui, moi, m'intéressaient ou m'importaient à des spectateurs. J'ai eu envie, ces dernières années, de faire un théâtre qui soit un acte de résistance. C'est-à-dire de... Je m'intéresse beaucoup au monde politique et à la politique dans le sens premier du terme, police qui en grec veut dire la cité, donc aux choses de la cité. Mais j'ai pas envie d'être militant politique. Et par contre, il me semble aujourd'hui plus important d'être debout, de résister, de dire des choses qui nous semblent vitales. Et puis un autre élément qui est important, je suis entouré de 4 jeunes filles pour les auditeurs qui sont toutes extrêmement jeunes, et donc moi je suis plus jeune du tout, et ce qui est essentiel, c'est l'importance de la mémoire. C'est-à-dire que vous, votre mémoire est jeune, c'est normal, et puis tant mieux, vous avez vachement de bol, j'aimerais bien être à votre place. Et par contre, l'avancée d'un individu, d'un citoyen, d'une citoyenne, a cette nécessité de mémoire. Et donc j'ai décidé maintenant de ne plus faire, quasiment plus, que des spectacles de théâtre qui portent un acte de résistance et qui portent un acte de mémoire. C'est-à-dire de rappeler des choses qui ont existé, dont on a perdu le sens, puisqu'on les a enfouies, et qui pourtant nous aident vachement à avancer, quoi. En l'occurrence, pour être plus précis, après cette longue introduction, j'ai voulu travailler sur... donc, je m'appelle José Manuel Cano López. Quand je suis né, on m'appelait José Manuel Cano López, porque como nací en España, en Granada, en Andalucía, donc je suis né dans une terre très lointaine, en gros 1800 km de Tours, dans la ville de Grenade, qui est une ville absolument incroyable, qui était la dernière capitale du royaume Maure, M-A-U-R-E, en Europe. Donc je me retrouve ici en France, maintenant à 63 ans, à parler de mon autre pays, de mes autres racines, qui sont les racines que j'ai recréées en arrivant, en débarquant dans ce pays sans connaître un mot, en 1964, à l'âge de 8 ans. Et en fait, l'apprentissage de ce deuxième pays, l'étonnement d'être là, c'est très vite, et au fur et à mesure de mon parcours de vie, plus je grandissais, je ne comprenais pas pourquoi... Qu'est-ce qu'on est venu faire en France ? Pourquoi on est arrivé en France ? Pourquoi mes parents nous avaient amenés d'une ville ensoleillée, Granada, à une ville froide qui est toujours la ville de Bourges, pas loin d'ici, à 150 km de Tours. Et il n'y avait pas moyen de savoir. D'ailleurs, je demandais à ma mère ne savait pas, on était partis parce qu'il y avait de la famille. Puis mon père refusait de parler de ça, quoi. Évidemment, quand on grandit, on commence à se poser des questions et on apprend, par exemple, qu'en Espagne, il y a eu un truc qu'ils étaient appelés la guerre civile. Et que pendant 3 ans, les Espagnols se sont entretués entre frères, sœurs, oncles, tantes. Une guerre civile, c'est s'entretuer en famille, au sein d'un même pays. Et je savais pas. Je connaissais pas ce lien, le lien qui pouvait exister. Puis un soir de septembre 1975, j'avais 19 ans, je quittais la maison, le HLM du quartier des Gibjons, quartier dit de politique de la ville, donc quartier sensible, pour venir faire mes études, comme vous, à Tours, à l'université de Tours, Radio Campus. Donc je suis arrivé à la rue des Tanneurs, en fac de lettres, en 1975. Et c'est ce soir-là, avant de partir, le lendemain, pour Tours, j'ai demandé à mon père, je lui ai dit, écoute, je vais partir, et donc, obligatoirement, je vais revenir, mais évidemment, mais il y a... Voilà, c'est un moment, c'est un passage, et tu pourrais pas, enfin, me dire pourquoi on est là, quoi. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quoi ? Pourquoi t'es venu là ? Il était très tard, hein. Mes frères et sœurs dormaient, ma mère dormait, et puis c'est bien à parler. Cet homme qui n'avait jamais dit un mot s'est mis à parler, et il a parlé pendant 3 heures, 3 longues heures, et à la fin. Je lui ai dit, écoute papa, c'est bien, maintenant je sais et je comprends ce qui s'est passé. Mais mes frères et sœurs, ils ne savent pas, ils sont trop jeunes. Et est-ce que tu ne pourrais pas m'écrire m'écrire ça, ce que tu m'as raconté, pour que je le garde et que quand ils seront en âge de comprendre, ils sachent pourquoi eux aussi, ils sont là. Et le lendemain, avant de partir, mon père, il m'a donné une quinzaine de pages avec une magnifique écriture très très appliquée, parce que mon père n'était pas un écrivain du tout. Et il s'est vachement appliqué à écrire 15 magnifiques pages avec tous ces souvenirs-là. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que une autre soirée un peu particulière m'a complètement bouleversé. Il y a un peu plus de 2 ans, au Plessis, château du Plessis, on a accueilli un cinéaste, un documentariste espagnol qui s'appelait Jean Ortiz. Enfin, il est français, il est à Toulouse, mais il est d'origine espagnole aussi, républicain. Et on a projeté un documentaire qui s'appelait Compañeras. Ça veut dire camarade, mais camarade, femme. Et les femmes. Et donc, c'est un documentaire sur avec plein de témoignages et toute l'histoire de la résistance des femmes espagnoles, des femmes espagnoles. Mmh. Et ça me semblait vachement important aujourd'hui de parler de la résistance des femmes, qu'on a complètement oublié. C'est une histoire de mémoire. Et donc ce documentaire, basé sur plein de témoignages, parcourait la lutte des femmes espagnoles de 1931 à aujourd'hui. Alors voilà, le problème de mémoire, il est là. Il est que plus personne ne sait pourquoi il y a une guerre civile en Espagne. Personne ne sait, là c'est un royaume, il y a un roi, qu'en 1931 c'était une république, mais qu'il n'y avait plus de roi. Et qu'après, il y a eu un coup d'État, et donc une guerre civile. Et que ce sont les fascistes qui ont pris le pouvoir en Espagne, et qu'il y a eu une dictature qui a été la plus longue d'Europe, 37 ans de dictature. 37 ans. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas respirer. On se retrouvait en tôle, où on était massacré, ou si c'était une femme, on était violé, en plus, etc., etc. Et que ces femmes-là racontent toute leur... histoire avec des éléments sidérants. On parle aujourd'hui, et encore des propos que je trouve totalement nauséabonds sur le traitement qu'on va encore faire aux immigrés, qui sont, comme d'habitude, les boucs expiatoires qu'on jette à la tronche de ces salopards d'extrême droite pour leur faire plaisir. Là, on parle beaucoup des vagues d'immigration, des exodes, des gens qui viennent de loin parce qu'on a foutu le bordel un peu partout et qui sont obligés de s'enfuir. Et par exemple, en 1939, février 1939, fin de la guerre civile espagnole puisque les fascistes, les franquistes gagnent la guerre. D'un seul coup, la panique prend tous les hommes, les femmes et les enfants qui étaient dans le nord de l'Espagne, c'est-à-dire en Catalogne. Et en quelques jours, ce sont 500 000, un demi-million d'hommes, de femmes et d'enfants en plein hiver qui partent de l'Espagne, de la Catalogne, pour passer la frontière et se réfugier en France, pour ne pas être tués. 500 000. Et on parle là de quelques milliers qu'on ne veut pas accueillir. Là, c'était un demi-million de personnes. La police française de l'époque suit les ordres du gouvernement et les parque dans des camps de concentration. Premier sens du mot concentration, donc pas confondre avec extermination, c'est qu'on concentre les gens. Voilà. Et tout le long des plages de la Catalogne française, Argelès, Collioure, magnifique, hein, j'y étais il y a deux jours encore là-bas, on entasse ces gens-là, entourés de fils de fer barbelés. On en laisse crever une grande partie. On sépare les familles, etc., etc. Et les femmes continuent à résister. Et notamment beaucoup de femmes rejoignent un an après la résistance française. Mmh. Et voilà, si on compte, c'est pour ça que j'ai pas de problème, je peux en parler pendant des heures et des heures, parce qu'il y a tellement de faits. Par exemple, est-ce que l'on sait qui était dans le premier convoi parti pour le camp de concentration de Mauthausen de France? Il y a un premier convoi avec près de, je crois que c'était 900 personnes. Il est parti de la gare d'Angoulême. Il était rempli d'hommes, de femmes et d'enfants républicains espagnols. Et c'est la police française. Le premier convoi vers les camps de la mort, c'était des républicains espagnols. On l'a refait payer une deuxième fois. Et ça, on l'ignore. C'est revenu il y a très très peu dans la mémoire. Il y a eu, il y a 4-5 ans, on a fait une stèle dans la gare d'Angoulême et d'un seul coup, on a appris. Le premier qu'on voit, c'était des Espagnols. Qui c'est il y a 4 ans, personne. Maintenant, un tout petit peu plus pour des raisons un peu étonnantes de mémoire. Mais quels sont les premiers hommes qui ont libéré Paris des nazis? C'était la division Leclerc. Mais dans la division Leclerc, il y avait une compagnie, la 9e. La 9e compagnie, c'est eux qui ont libéré Paris. La 9e compagnie s'appelait en fait la 9e. Pourquoi c'était la 9e? Parce qu'elle était composée de républicains espagnols. Et c'est les républicains espagnols qui ont été les premiers à libérer Paris. Il faut savoir que, par exemple, pendant des années, des années, des années, avec y compris des gens qui ont été au pouvoir dans notre Touraine, ici, certains députés ont refusé de voter une pension aux républicains qui sont battus pendant toute la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, du côté des Français. Voilà, il y a comme ça toute une série. Alors, qui sait aussi que pendant les 37 années de dictature, ce sont 300 000 bébés, qui ont été enlevés à des femmes républicaines pour venir grossir les rangs des familles franquistes qui ne pouvaient pas avoir de môme. On a volé 300 000 bébés en Espagne. C'est un truc de malade.
C'est un truc de malade.
Voilà. Et quand on voit, par exemple, vous, jeune fille, quelle est la force des mouvements féministes en Espagne aujourd'hui. Il y a eu un viol terrible il y a un an à Pamplune. Et les femmes se sont mises en grève en Espagne. C'était la plus grande grève qu'il y ait jamais eu. Elles ont paralysé le pays. Et il y a cette résistance qui est là. Donc j'ai voulu parler de tout ça. Et quand on met bout à bout cette mémoire enfouie, je sais que l'année dernière, il y a plein de jeunes qui ont vu le spectacle quand on l'a créé à la Pléiade et qui, à la fin, disaient mais merde, pourquoi on ne nous parle pas de ça en cours? Pourquoi on ne sait pas tout ça, quoi? C'est important pour nous de savoir que ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai eu envie de mettre, d'abord de parler de cette mémoire enfouie et de redonner la véritable place dans la mémoire aux femmes. Parce que c'est pas que les mecs qui sont courageux et qui ont du poil aux pattes. Il vaut mieux que les femmes n'aient pas de poil aux pattes, c'est pas très beau. Si je pouvais me raser les miennes, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai eu envie de parler de ça. Et donc j'ai demandé à Jean Ortiz et puis à... Ils étaient deux documentaristes, Dominique Gauthier, s'ils m'autorisaient à tripatouiller, à utiliser leur film. Donc ils m'ont dit oui tout de suite. Donc j'ai utilisé les témoignages, j'ai pris toutes ces femmes-là, donc de 31 à aujourd'hui. Et puis, y compris, j'ai eu le droit d'utiliser leurs images. Donc, dans le spectacle qui va être joué jeudi prochain, le 12 février, à la Pléiade, il y aura aussi des extraits de ces témoignages-là, projetés. Et puis après, je me suis dit que il me manquait un petit élément dans ce travail qui était... fallait un fil conducteur, puisque les témoignages partent de 1931, c'est des témoignages fragmentaires, jusqu'à nos jours. Il fallait qu'il y ait quand même une ligne comme ça. Et puis, je me suis souvenu des 16 pages de mon père. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est en fait, son texte, il parle de ça, quoi. Parce que c'est moi qui lui ai demandé de me redonner ma mémoire perdue ce soir-là. Donc, ça justifiait cette quête de mémoire, la nécessité de dire et de continuer à dire et de nourrir les générations en disant pour ne pas oublier et pour mieux vivre. Et donc j'ai fait un montage avec tout ça qui s'appelle Romancero des ombres. Alors des ombres parce qu'on les voit pas, parce qu'on voit pas les femmes, parce qu'on n'a jamais vu les souffrances de mon père. Quand pendant la guerre civile il s'est retrouvé tout seul entre 8 et 12 ans, coupé de ses parents dans une Espagne, une Andalousie en guerre, parce que son propre père est mort des suites de ça, parce que, etc., etc., etc. Et puis parce qu'à un moment donné, il a décidé de partir parce que ses gamins avaient faim. Et l'aîné de ses gamins qui avait faim en Espagne, c'était moi. Donc j'ai eu envie de mettre ce texte-là comme épine dorsale, on va dire, de ce parcours dans la mémoire. Donc c'est un type de théâtre qui est très particulier, c'est du théâtre documentaire, puisque rien n'est fictif. Tous les récits sont réels, le récit de mon père c'est son récit, c'est un document. Et c'est un type de théâtre qui, moi, m'intéresse beaucoup, j'ai envie de travailler maintenant... sur ce type de relation à l'épaisseur théâtrale ancrée dans une réalité de vie, dans des réalités de vie, dire des vies. Voilà, alors après il se trouve que c'est une démarche qui est un petit peu bizarre parce que c'est... Moi, je suis quelqu'un de très pudique. J'aime pas trop raconter des choses intimes. Et là, c'est quand même un peu intime puisque c'est l'histoire de mon père et c'est ma propre histoire. Et il se trouve que pour des raisons qui n'étaient pas... Au départ, je devais créer ce texte avec 8 comédiennes. Je voulais que des femmes, un homme, pour le texte de mon père. Et puis, il se trouve que depuis 3 ans, on a été flingués encore plus en termes de subventionnement. Donc, on a perdu. Et donc, j'avais plus d'argent pour payer les 8 comédiennes que j'avais choisies avec qui j'avais commencé à travailler. Et on est arrivé un autre truc un peu bizarre qui nous a, nous, pendant le temps de la création, quand même, par moments, c'était vraiment très troublant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut pas payer des gens, vraiment, on essaie de trouver des gens qui ne vont pas vous faire la gueule si vous ne les payez pas. Et les seules personnes qui ne vous font pas la gueule si vous ne les payez pas, ça peut être que votre famille. Donc, on se retrouve sur le plateau avec Françoise, qui est donc ma femme, avec Mathilde, qui est donc ma fille. Et puis, j'ai même plus de comédien pour jouer le rôle de mon père, et c'est moi qui joue le rôle de mon père. Et mon propre rôle, à la fin, puisqu'à la fin, je parle en tant que moi. Donc, on se retrouve sur une singularité, un truc très particulier, d'avoir une famille sur un plateau. Qui raconte ces histoires de famille, mais ces histoires de famille qui ne sont pas du tout dans une intimité frivole, qui sont dans une force de l'histoire, dans une exemplarité de l'histoire. Donc c'est un truc très étrange, quoi. Bon, évidemment, pour boucler la boucle, la création en lumière et toute la création son qui est très très importante, musicale et sonore, puisque ce sont vraiment des ombres qui se croisent, des strates d'histoire qui se croisent, c'est Clément Cano Lopez, mon fils, qui les a composés aussi. Donc c'est vraiment une histoire familiale, il faudra quand même payer un peu, mais malgré tout, hein, on demande au public de payer un petit peu. Voilà ce parcours qui... Alors, l'année dernière, quand on a fait la création... Alors effectivement, sur les répétitions, par moments, c'était un peu gênant, puisque quand on attaquait les répètes, c'était un petit peu... Moi, j'avais envie de dire, qui c'est qui découpe le poulet aujourd'hui, quoi. C'est comme si on se retrouvait autour d'un repas familial en train de manger ensemble. Donc, c'est pas si simple de travailler en famille. En dehors de ça, au bout d'un moment, on s'est rendu compte, et moi, je le savais, parce qu'on avait fait des étapes publiques, on me disait, c'est pas trop violent pour toi, c'est pas trop dur de raconter les histoires comme ça. Non. Non, ça peut. Faut jamais mélanger, et ça m'a toujours gonflé au plus haut degré. Les gens qui pleurent sur scène, qui souffrent, qui. Je sais pas trop quoi, qui sont dans un jeu naturaliste, ça m'a toujours profondément énervé. Donc il faut jamais oublier qu'on joue. Je veux dire que le rôle de l'acteur, on peut jouer n'importe quoi, on a une distance. Donc, effectivement, notre travail, il a été très distancié. Il n'y a jamais eu de moment ambigu, difficile, Moi, j'ai jamais... Alors, en plus, c'est très troublant, parce que mon père parle, par exemple, de ses souvenirs d'enfants qui avaient faim, donc en 1931, 32, 33, 34, 35, 36. Et donc, il allait à une école catho, parce qu'il n'y avait que des écoles catholiques à Grenade, où on accueillait les enfants pauvres de Grenade et on leur offrait un repas à midi, gratos. Mon père, dans son récit, cite ce qu'il mangeait. Par exemple, du pot-au-feu avec du boudin, c'est mon texte. Ou un plat de lentilles avec du chorizo et un dessert et tout ça gratis. Voilà, c'est ce qu'il écrit. C'est des moments de bonheur inoubliable, parce que là, il n'avait pas faim. Et le problème, c'est que 30 ans après, 35 ans après, c'est moi qui ai vécu la même chose. C'est-à-dire, j'allais à la même école, Ave Maria, je mangeais le même pot-au-feu avec le même boudin, je mangeais les mêmes haricots secs avec le chorizo... Et il y a cette espèce de travail qui est, qui est pas évident, quoi. Qui est comment arriver à distancier d'une intimité aussi forte. Alors, donc, il n'y a pas eu de problème. Hein, c'est pas moi. Il y a un pacemaker qui vibre, mais c'est pas moi.
C'est pas moi non plus.
Voilà. Non, c'est pour dire, si jamais on entendait à l'antenne, que je n'ai pas de pacemaker, mesdames et messieurs. Donc, ensuite, l'accueil, il a été incroyable. Ça a été très, très bouleversant, quoi. Il y avait à la fois dans le public, il y avait des gens qui avaient vécu ces périodes-là. Il y avait des enfants de républicains qui s'étaient aussi exilés. Il y avait des gens qui ont participé à ce qu'on appelle la retirada, c'est-à-dire l'exil des 500 000 personnes. Il y a Fernande, on a parlé, qui est une dame qui s'occupe d'une association mémorielle, a vécu, elle était dans la colonne de la mort. Mais en même temps, il y avait des jeunes qui connaissaient rien du tout à cette histoire-là. Et puis, effectivement, le poids de l'histoire, je crois que ce qui est important, c'est l'exemplarité de ce qui est mis en jeu, qui trouve écho en chacun d'entre nous. Même si on n'a pas vécu ça, c'est pas le problème. On sait que un être humain, il a ses profondeurs, ses abîmes, et que une pièce de théâtre peut effectivement les réveiller, mais pas les réveiller pour lui faire mal, les réveiller pour lui faire sentir qu'il y a ses abîmes en lui. Et évidemment, c'est la fonction du théâtre. En disant ses abîmes, on va mieux.
La catharsis.
Voilà. Bien joué. C'est exactement la catharsis théâtrale, comme la catharsis au niveau psychanalytique. Dire pour aller mieux. J'ai peut-être arrêté mon monologue. Hein.
Bon, on va peut-être faire une petite pause musicale.
Ouais, il vaudrait mieux, là, parce que là, je vais vous endormir tout.
Non, pas du tout. C'est très intéressant, parce que ça montre ce côté un peu don de la mémoire qu'on n'a pas tous. Ça permet aussi de... Bah justement, quand on regarde ce genre de pièces, de savoir que ça existait, parce que, comme vous disiez, personne ne savait encore il y a 4 ans, par exemple, par rapport à Angoulême. Et maintenant, je pense que ça peut faire prendre conscience que ça existait. Il s'est passé des choses en France, et maintenant, il faut le savoir, quoi.
Musica. Allez.
Donc on va partir sur un truc un peu plus avec du Stevie Wonder and Superstition.
C'est un gitan.
Turn this way.
Toujours en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et puis nous sommes toujours avec tout le monde autour de la table. Mélissa, les deux jeunes filles du service civique qui ne nous ont même pas dit notre prénom. Et puis...
Agathe et Lucie.
Donc Agathe et Lucie. Et puis on est reparti avec Monsieur José Emmanuel Cano Lopez. J'insiste sur le mot.
Si, señora, si, señora. Ah, là je suis obligé de meubler parce que donc il y a un problème, une crise à ma droite. Une deuxième crise.
Bon alors c'est bon. Pas grave, je vais poser la question à 1000 francs composés hors antenne. Vous n'avez pas gardé la voix de votre père?
Non, parce que quand il s'est mis à parler, je crois que c'était vers 1h du matin sur le balcon, avec la cité en bas, à nos pieds, c'était un miracle, hein. Il fallait surtout pas que je perturbe ça. D'abord, j'aurais pas pensé à l'enregistrer parce que j'étais vachement impressionné. Et mon père était un homme impressionnant. C'est un homme qui dégageait une espèce de... Tous les gens qui l'ont connu... Là, c'est moi.
Chacun son tour.
Tous les gens qui l'ont connu l'ont reconnu. C'était un personnage très... Ça y est. Je suis désolé. J'ai la gorge qui me pique. Quelqu'un de très altier. Je vais pas pouvoir continuer. Est-ce que vous avez pas un peu d'eau? Il parle.
Alors oui, en fait, si j'ai une autre à propos de voix. En fait, si je dis voix, c'est parce que ce que vous racontiez, José Emmanuel Cano Lopez, c'est que ça fait penser, d'une part, au livre de Lydie Salvaire, Pas pleurer, où elle dit que sa mère, quand elle raconte... Elle raconte en parlant fragnole, où elle mélange le français et l'espagnol. Elle invente des mots, elle colle des mots ensemble. Et ça fait penser aussi à Cavana, qui écrit les Ritales.
Oui.
Et en fait, je me demandais, est-ce que votre père parlait un français comme un français né en France, ou est-ce qu'il y avait encore cette langue... Est-ce qu'on entendait cette langue espagnole dans le...
Alors, je suis content de... que vous parliez de Lydie Salvaire, que j'ai eu la semaine dernière, parce qu'elle devait venir à la Pléiade voir le spectacle, et finalement elle a une obligation beaucoup plus importante que ça à Lausanne. Effectivement, dans Pas pleurer de Lydie Salvaire, on est sur une histoire mémorielle qui a des similitudes. C'est pour ça que Lydie Salvaire a lu le récit de mon père. Mais la grande différence, c'est que elle le raconte aussi, elle, qu'elle a vécu jusqu'au moment où elle est partie de la maison aussi. Hein, et elle vivait en France, mais elle ne vivait pas en France. Moi, je vivais à Bourges, mais je ne vivais pas à Bourges chez moi. Je vivais en Espagne. En fait, mes parents parlaient espagnol, et uniquement espagnol avec nous. Et on écoutait la radio espagnole, et on mangeait espagnol, et on rêvait espagnol. Moi, j'étais très très surpris, devenu adulte quelques années après, de rêver en français. Moi, j'ai toujours rêvé en espagnol. Et c'est un peu bizarre de penser qu'on rêve dans une langue qui est sa langue natale, etc. Alors non, mon père parlait pas le... Non, il parlait espagnol. Et quelques mots en français, mais il parlait espagnol. Et puis après, dehors, il se démerdait quand il allait au boulot, il parlait français. Ma mère, elle parlait comme la mère de Lydie Salvaire. Par exemple, Vamos a tirar la poubelle. Donc, on va jeter la poubelle. Mais la poubelle, ça ne veut rien dire. C'est basura, poubelle. Poubelle. Voilà, ça c'est cette langue-là. Il y a plein d'enfants, de gens immigrés qui l'ont parlé, quoi. Alors, de toute façon, ce n'est pas possible par rapport à la voix de mon père. Après, quelques années après, mon fils Clément, qui a fait des études d'ingé son, très longues études, a fait des documentaires sonores. Et il en a fait un avec ma mère et il en a fait un avec mon père. Et là, mon père a accepté de parler. Et il a effectivement accepté. J'ai pas eu encore le courage de réécouter depuis son décès. Mais oui, il avait envie de raconter après. Je pense qu'à un moment donné, on a envie de dire des choses. Mais la blessure, ces blessures-là, elles sont terribles. Hein. C'était un peu la même histoire. Le grand-père de Françoise, mon épouse, était un ancien poilu. Et moi, ça m'a toujours fasciné. C'est des périodes historiques et mémorielles de mémoire m'importent. Et donc, quand je lui demandais si qui s'était passé, il ne voulait pas me parler. C'était la même chose. Le père Louis Chevrette ne voulait pas parler de ses 4 années sur le front en 14-18. Et ce même silence qu'on retrouve, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, moi, dans cette histoire. C'était le parallèle entre le silence de Louis, de Pépé Louis, et le silence de mon père à moi. Des hommes qui étaient complètement de pays différents, d'histoires différentes, d'âges différents. Et devant un traumatisme aussi important qu'une guerre, ils veulent plus en parler. Ils veulent plus.
Mais ça, ce choc post-traumatique, on retrouve pour toutes les personnes, enfin pas toutes, mais certaines qui ont été déportées. On retrouve aussi, je pense justement, les gens qui ont dû aller en Algérie à l'époque, ouais, où il y avait la guerre.
Bien sûr.
Les gens ont du mal à faire ce travail de dire les choses. Et en fait, peut-être, est-ce que ça reconstruit une mémoire familiale et collective, de le mettre sur scène, en fait, de transformer un souvenir traumatique en œuvre? Est-ce que ça...
Oui, bien sûr. C'est une très belle analyse, mademoiselle.
Merci, monsieur.
Faut que je dise mademoiselle, moi aussi, maintenant. Non, mais effectivement, je veux dire, les traumas dont je parle, familiaux, là, que ce soit le Louis Chevrette ou mon père, ce ne sont pas des exceptions. Il y a eu des centaines de milliers de gens totalement marqués, traumatisés par des chocs, évidemment. Il se trouve que moi, dans mon travail de metteur en scène, je suis marqué par les choses qui m'entourent et qui m'importent. Donc, j'ai voulu parler de ça. Le père Louis Chevrette m'avait parlé de les deux traumas que j'avais eus et surtout la force de son silence, J'ai toujours eu pendant des années envie de faire un ou des spectacles sur 14-18. J'en ai fait deux. J'ai fait un spectacle qui s'appelle L'être entre chien et loup, qui est aussi du théâtre documentaire, où j'emmène le public dans un partage de la mémoire, puisque ça ne joue pas sur un plateau, ça se joue autour d'une longue table de banquet où il n'y a que des lettres, que de la mémoire. Et le public entoure les acteurs. Et puis j'ai fait un autre qui s'appelait Le cabaret du bout de la nuit, où là on a travaillé sur une forme beaucoup plus spectaculaire. Mais parce qu'effectivement, je crois que ce que tu disais à l'instant, le fait de théâtraliser ce qui sont au départ des souvenirs familiaux, mais les témoignages des femmes de compagnie du film que j'ai adapté, c'est pas ma famille. Mais le fait de rassembler des gens et d'en faire un récit théâtral aide de fait à dire les choses, à les dépasser, ou en tout cas à sortir grandi. Il y a rien de... Mais on le sait, on parlait tout à l'heure de catharsis. Les grandes douleurs... beaucoup de grandes douleurs dans des situations de dérèglement psychiatrique, hein, Elles sont nées parce que le trauma de départ a été enfoui. Parce qu'on ne veut plus le dire, parce qu'on l'a mis sous des strates et qu'on sait, on sait même plus pourquoi. Sauf que tout le corps entier est totalement bousillé, marqué, et la tête aussi, jusque parfois, ça arrive un petit peu à être dévoilé, et donc les choses vont un peu mieux, quoi. Donc, la fonction d'une représentation comme celle-là, elle est aussi de porter le témoignage, de partager la mémoire, de raviver une mémoire. Et puis, comme la tragédie grecque, hein, le moment où on rassemblait la cité devant une tragédie, c'était un moment où on partageait ensemble les plaies d'une société ou d'un vivre ensemble qui était perturbé, quoi.
D'accord, merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne, je suis désolée, je regardais autre chose. Et ça va être l'heure, malheureusement, même si c'est très intéressant et franchement, je pèse mes mots en disant ça. Ça va être l'heure, malheureusement, de se laisser parce qu'on a encore un petit agenda après, une petite pause musicale à passer.
Bien sûr.
Donc, je vais.
On vous donne les petits rendez-vous qu'on a ?
C'est exactement ce que j'allais dire.
C'est très bien.
On va partir sur les petites infos pratiques, savoir quand, où, comment.
Alors, Romancero des Ombres, à la Pléiade, jeudi 12 novembre à 20h.
Jeudi 14 novembre.
Ah, j'ai dit 12 novembre. Heureusement que j'ai de superbes assistantes. 14 novembre. Jeudi 14 novembre à 20h à la Pléiade. Réservation 02 47 38 29 29. Et puis sinon, juste vous dire que deux jours après, on aura au Plessis toute une journée hyper importante consacrée à une sorte de mini-festival, une journée de soutien à Utopia 56.
Qu'on a reçu dans l'émission il y a quelques jours.
Voilà, donc ça va être un très bon moment. Et puis après, venez au château, vous allez voir, on boit des coups, c'est super sympa. Et puis on parle des choses, pas toujours, pas uniquement des choses tragiques. Hein. Voilà.
Et ce spectacle, alors, est-ce qu'un jour il sera joué en Espagne ?
Bon, on aimerait beaucoup. Ah. Oui, on va en faire une forme. Le problème, c'est que c'est la forme. Venez, mesdemoiselles, je vous y invite. Hein. Vous allez voir, c'est assez étonnant, mais là, la forme qu'on a à la Pléiade est une forme très spectaculaire. Et il y a un énorme travail de lumière, de projection, mais je voudrais en faire une forme qu'on puisse tourner partout. Et là effectivement, on a beaucoup de contacts avec les organisations mémorielles des camps, justement, de concentration, à Rivesaltes, à Collioure. Et on a envie de faire une tournée aussi pour tous ces gens-là et de continuer à partager au maximum.
Eh bien, du coup, rendez-vous 14 novembre. Moi, je pense que je viendrai.
Ben, venez, hein. Vous dites votre nom. Hein. Non, mais ça, vous donnez. Et puis, avec mes camarades, là, vous notent. Et puis, vous êtes bienvenus.
D'accord, merci beaucoup. Alors, et puis, merci d'être venu, surtout d'avoir assisté à cette émission. Et puis, à bientôt. Nous,
merci.
On va se laisser avec Kendrick Lamar et King Kuta. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Well, you got the yams. What's the yams? The yam is the power that be. That be. That be. That be. That be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can. Oh yes we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no! I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, when you got the yams.
The young brother got a richer prior. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say, oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the gang, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Where you and I was walking. Now I run again, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
You goat mouth mammy fucker.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, whoa, whoa. Yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate, straight from the bottom. It's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah, bitch, where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah, bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. I remember you was conflicted, misusing your influence.
Toujours en direct de votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Désolée, je me remets un peu de mes émotions, c'était passionnant, mais littéralement. Et donc ça va être l'heure de partir pour l'agenda.
What you gonna do now?
Pour votre agenda du 7 novembre, du coup, novembre, c'est un mois triste, les feuilles tombent, il fait moche, tout le monde est de mauvaise humeur, et quand on est triste, on aime écouter quoi ? De la musique triste ! Et c'est ce que propose Xaméléon, enfin il propose plutôt de la nostalgie, car il est nostalgique de l'été, des vacances, des souvenirs chauds. Alors rendez-vous pour ce concert nostalgique ce soir de 19h à 22h au Kubrick. On en parle vraiment tous les soirs de ce bar, c'est pas possible. Ils sont venus à nous mardi, vous savez qu'ils sont, les crèmes que c'est, alors ne loupez pas leur after work. Les Polissonnades vous invitent à les découvrir, discuter ou juste passer un bon moment avec leur DJ Polisson qui viendra les rejoindre pour mixer jusqu'à 23h30. C'est donc ce soir de 20h30 à 3h30 à l'Académie de la Bière, comme on l'a dit, mais c'est 43 rue Lavoisier à Tours. Si les années 2000 te rappellent de bons souvenirs musicaux, alors cette soirée DJ Set by Polo devrait être faite pour toi. Prêt pour tes tubes de la honte? Alors rendez-vous demain dès 21h au Puzzle Pub, 2 rue Châteauneuf. C'est une triste nouvelle que je vous annonce maintenant, car ce soir, c'est la dernière Brigante Thursday de l'année. Il vous invite à fêter ça dignement une dernière fois, avec un tirage au sort pour gagner des cadeaux dans la soirée. Toujours leur bière, la Thursday Session IPA, à 3 euros. C'est donc ce soir de 21h à 4h aux Arkin Institute, 8 rue de la Place Monet-Tournois à Tours. Et on termine avec une ouverture, mais pas n'importe laquelle. Vous l'attendiez, nous l'attendions. La boutique Chaudron Magique fait une arrivée triomphante à Tours. Et qu'est-ce que c'est ? Mais c'est une boutique dédiée au monde d'Harry Potter et des animaux fantastiques. Créée par un passionné pour les passionnés. Alors tous à vos baguettes, demain vendredi 8 novembre de 16h à 21h, rue des Trois Écritoires à Tours. Et c'est la fin de cet agenda du 7 novembre, pardon. Il ne me reste plus qu'à vous faire les petits rappels de fin d'émission, comme d'habitude, par exemple, de vous souhaiter une bonne soirée, par exemple, de vous dire de bien vous amuser, par exemple, de dire que la rediffusion se fera demain de 6h à 7h, que le podcast et l'article seront en ligne dès ce soir sur toutes les plateformes, le Facebook de la radio, le site radiocampustour.com. Et c'est l'heure pour moi de vous laisser, parce qu'on va avoir le flash RFI, et de vous donner rendez-vous à 18h15 pour le Ghetto Blaster avec Jérémy. On se laisse avec une dernière musique, Faisal, La Belle Endormie. Bonne soirée à tous et à demain.
De ces anonymes à la lueur d'un lampadaire, dans sa sueur il n'y a pas d'air, les larcins sont une énigme, le malsain a ses paradigmes, les drogues tuent à la longue un grog, des déprimes un gong et les capucins s'animent, sa frime court de la marne, trime un soir interminable et en star ça se réincarne, dans un bar minable il est trop tard mais c'est la course, vers le summum des boulevards à place de la bourse, est à l'envers au maximum, du regard de travers, à l'avare abaissé, les plus bavards ont encaissé, bagarres et revers, certains cessaient à des berlines, près des quais certains ont cessé de traquer la CC pour braquer leur spleen, craqué pour de l'adrénaline. Suivre la coutume, rendu ivre par son bitume, y vivre est une discipline. Mais des chartrons à la flèche, le problème diffère, c'est les mêmes que l'on défère. Peu de grands patrons en calèche. Cours pasteur, ces trottoirs sans éclairage. Pour de l'amour à 7h, les perdus sont en repérage. Au son du carrousel, on se croise à nos manières. Se toise dans nos parcelles, chacun son du sa bannière. Les pavés rues de la Roussel ont l'odeur de ses façades. De l'ardeur maussade, des dépravés qu'elle recèle. Certains y flairent les brefs cruels rêves de dépénalisation. Les feux de signalisation éclaire les ruelles. Reprend ses droits en aparté, même les plus dignes portaient la guine de cet endroit, emporté par la rame. En balade sur un rail, certains paradent dans ses entrailles, entre un carta, des mélodrames, une mascarade rue Sainte-Catherine. C'est des chiffres de vente, des sous-fifres qui se vendent de leur grade derrière une vitrine. Des dames sans cavalier qui se dégradent ces jours-ci.
Radio Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.